pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Anne est née dans les années 60 au sein d'une famille de la classe moyenne. Sa mère est au foyer, son père travaille chez un fabricant de meubles. Mais il rêve de grandeur, d'ascension sociale, d'avoir son propre magasin, peut-être même d'entrer au Rotary Club de la petite ville où il vit. Bref, de monter, de devenir quelqu'un. Pour cet homme, la vitrine, la clé de la réussite, le chemin de la gloire, ce sont ses deux filles, Anne et sa sœur, et aussi sa femme. C'est grâce à elles qu'il réussira. Et pour cela, il faut qu'elles soient minces, fines, élancées, des modèles. Aux yeux de son père, Anne raconte qu'elle n'est jamais assez fine, jamais assez mince, toujours trop grosse. À ses filles, le père dit « Faites un régime et la première qui perd 10 kilos aura droit à une nouvelle robe ». Anne pourtant est une jolie petite fille, puis une très belle jeune femme. Mais plus son père lui demande de mincir, plus elle grossit. À 19 ans, elle fait 70 kilos. Elle tombe enceinte comme par défi, mais fait une fausse couche. Au passage, elle prend 30 kilos. Sa mère, elle, réagit aux injonctions paternelles en devenant alcoolique, sa sœur dépressive. Toute sa vie de femme, Anne la vit et la construit autour de son poids. Appelez ça hyperphagie, obésité morbide ou longue maladie. Dès qu'elle mincit un peu, on la félicite, on l'encourage. Et c'est justement ce qu'elle supporte le moins. On ne l'accepte pas comme elle est. Alors elle grossit à nouveau. À 60 ans, elle fait des apnées du sommeil inquiétantes et son médecin lui recommande vivement une opération de l'estomac. Anne accepte et perd en un an 50 kilos. Elle renoue avec d'anciens amis, socialise à nouveau, mais reste mal dans sa peau, insécure, triste. Au fond, elle vit sa perte de poids comme une imposture, quelque chose de soudain qu'elle n'aurait pas maîtrisé, un corps qui n'est pas le sien. Elle comprend alors que l'opération n'a nullement réglé son problème de poids et se remet à grossir. Au bout de quelques années encore, Anne trouve enfin une association qui l'écoute, la comprend. Des professionnels qui s'occupent de réfléchir avec des grosses à ce pourquoi elles sont devenues grosses et qui considèrent cette maladie sous plusieurs aspects, dans une complexité psychologique, sociale, psychanalytique, médicale, nutritive et pragmatique. Anne commence à aimer ce qu'elle est. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, c'est l'histoire de Gabrielle qui emploie aussi le mot « grosse » pour se décrire. Elle raconte comment on ne naît pas gros, mais on le devient, par Zoé Sfez.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Comment je me décrirais physiquement, enfin, un peu une madame patate, mais... mais voilà, avec de très jolis yeux et une bouche en cœur. Mais une madame patate. Je ne sais pas comment décrire mon corps et enfin, j'ai des jambes beaucoup plus fines que le haut de mon corps et enfin, du coup, pour moi, c'est évident de dire madame patate en fait. Je n'ai pas de mal à dire que je suis grosse. Ça m'a longtemps fait pleurer de dire que j'étais grosse, qu'on me dise que j'étais grosse. Mais aujourd'hui, enfin, factuellement, je peux pas nier ce que je suis. Enfin, j'ai arrêté de nier qui j'étais. Physiquement, je suis devenue grosse réellement après à 17 ans après ces traitements hormonaux. Mais j'étais préparée à être grosse mentalement bien avant. J'ai jamais été grosse quand j'étais petite, mais j'étais quand même déjà grosse dans le regard de mes parents. Il y avait ce terrain psychologique qui faisait que, de toute façon, j'ai toujours cru que j'étais grosse, même quand je l'étais pas. En fait, j'ai toujours eu un peu plus de poids que mes camarades, une taille de plus. Ça s'est toujours passé vraiment avec les achats d'habits et les râleries sur « Oh, t'es quand même beaucoup trop grosse ». Ma mère était très, très mince. Je l'ai connue... allant du 34 au 38, en fait, selon les périodes. Enfin, 38, c'était après les accouchements, quoi. Et mon père a été très, 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 très mince. Il a pris du poids en couple avec ma mère. Il dit que c'est ma mère qui l'a fait grossir. Mais en fait, c'est pas tout à fait faux. Parce que ma mère a quand même le don de faire grossir les gens. Ma mère ne se nourrit pas. Et donc, elle a ce besoin pathologique de nourrir l'autre. Puis à côté de ça, je crois qu'il y a un petit côté méditerranéen qui fait qu'on fait passer les sentiments par l'assiette. Si on a envie de te faire plaisir, on te fera des crêpes et un gâteau. Et puis si on se dispute, on n'aura pas de repas le soir. Ma mère misait sur, surtout ma mère misait sur le fait d'avoir un garçon. Toute sa grossesse, elle m'appelait David. Elle n'avait pas prévu de prénom féminin. Quand je suis née, le prénom qui est venu avec la surprise d'avoir une fille, c'était le prénom de sa mère dont elle n'avait pas encore fait le deuil. Sa mère était morte même pas 2 ans avant. Et donc Gabriel, qui, maintenant j'aime beaucoup mon prénom, mais quand j'étais à l'école, quand j'étais à la maternelle, on disait que j'avais un prénom de garçon. Et donc, je me souviens qu'il y avait des élèves au CP qui me frappaient parce qu'ils disaient que j'étais une fausse fille et que mes parents m'avaient coupé mon kiki à la naissance. Et du coup, je me sentais doublement pas digne d'être une femme. Et puis, en plus, à la maison, ma mère, elle a plus un problème en fait avec la féminité qu'avec le poids. Dès que j'ai eu 9 ans et que j'ai commencé à avoir du duvet qui poussait, et elle a très, 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 très mal vécu tout ça. Et donc, je me souviens de la conversation pour expliquer qu'un jour, mes seins allaient pousser, que j'aurais mes règles et tout ceci. Je me souviens que pour elle, ça a été super dur. Et je me souviens qu'elle m'a dit, quand on est une femme, on n'a pas de chance. C'est comme si c'était une fatalité. À partir du moment où tu auras tes règles, tu pourras tomber enceinte. Tout ça dans la douleur et puis quand la poitrine a commencé à pousser, ça a été dur d'avoir un soutien-gorge quoi. Ma mère, on est passé par les brassières pendant très très longtemps alors que j'avais déjà une bonne poitrine quoi. Et du coup moi j'en voulais pas non plus parce que je me disais que c'était le mal quoi d'avoir un soutien-gorge. Je trouve qu'il y a un côté tragédie grecque dans tout ça. Dans l'oracle dit qu'il va y avoir une tragédie, puis on passe toute sa vie à faire que cette tragédie n'arrive pas, et au final, on est en plein dans ce que l'oracle avait prédit. Mais à côté de ça, je m'en foutais, et aujourd'hui, je regrette d'être allée voir quelqu'un pour maigrir, parce que, je pense que si j'étais pas allée voir quelqu'un pour maigrir, je ferais pas 150 kilos. Ça paraît paradoxal de dire ça, mais on n'a plus besoin de prouver que les régimes font grossir. Le moment où je me suis dit « c'est bon, je suis trop grosse, il faut que je perde du poids », c'est vraiment quand je suis passée du 40 au 42 et que ça a effrayé ma mère. Moi, j'étais partie faire des courses avec mon père. J'étais contente, c'était la première fois que je m'achetais un jean Levi's. Donc je laissais et ça rentrait pas. Donc je me dis « bon, c'est pas grave, je prends la taille au-dessus ». Enfin, ça me traumatisait pas que le 40 soit trop petit. Et puis, j'achète du 42. Et puis, quand je rentre, moi, je suis contente. J'ai un beau jean que j'ai mis des années à avoir. Et puis, ma mère, là, elle voit la taille. Et elle me fait, mais c'est quelle taille? J'ai dit, c'est du 42. Je rentrerai pas. Et là, ça l'a complètement démoralisée, quoi. Et elle m'a dit, mais tu vas devenir obèse. Et c'est pas possible de changer de taille comme ça tous les ans. Et donc, j'avais 16 ans, presque 17. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas normal. Il faut que j'aille voir un docteur et faut que je maigrisse, quoi. Voilà, faut que je perde 10 kilos. Moi, je m'étais dit 10 kilos parce que j'en faisais 65. Que je me disais que 10 kilos, ça faisait 2 tailles et que c'était parfait. Du coup, je repasserai en 38. Donc voilà. Sauf que je vais chez le médecin. Et puis lui, il me dit qu'il faut perdre 20 kilos. C'était la grande mode de calculer le poids idéal en fonction des 10, la taille moins 10. Donc si tu fais 1m60, il faut faire 50 kilos. Mais ça, en vrai, c'est pour faire du 36. Mais ça, il te le dit pas, le docteur. Donc déjà, je fais un peu la gueule. Puis il me fait des analyses sanguines et puis il me dit que j'ai une maladie. Là, il me déclare que j'ai une maladie de la glande surrénale. Je le vis très très mal, je sais pas ce que c'est, mais je le vis très très mal parce que je suis toute seule à chaque fois chez les toubibs. Depuis mes 11 ans, je vais seule chez le toubib. Donc je suis un peu impressionnée par ce spécialiste. Et voilà, donc je me dis j'ai une maladie, j'ai 20 kilos à perdre. Enfin, tout ça, ça a joué pas mal sur mon moral. Et puis, je prends ces hormones qu'il m'a prescrit. Et puis, en quelques semaines, je prends 30 kilos. Des furoncles qui apparaissent partout sur mon corps. Je ressemble vraiment... Enfin, quand je dis que je ressemble à un monstre, il y a des gens qui me disent que je suis dure envers moi-même. Mais franchement, j'étais déformée. C'est entre la prise de médicaments aussi rapidement, en plus, ce changement. Puis du poil qui s'est mis à pousser. J'ai commencé à avoir la barbe, du poil sur les épaules, sur les seins, sur les fesses. J'avais aussi des crises de violence. On sait maintenant que c'était à cause de la testostérone que j'avais en beaucoup trop. À côté de ça, on me dit que je grossis trop, donc il faut me mettre au régime. Et on me passe au régime à 1400 calories, à 1200 calories, à 1000 calories, à 900 calories. Je pète les plombs et je deviens hyperphage. C'est comme l'idée qu'on a de la boulimie, sauf qu'on ne se fait pas vomir. Yeah. À l'époque, mes parents avaient divorcé. Ça faisait quelques années qu'on se nourrissait quasiment que via l'aide alimentaire. Enfin, aujourd'hui, l'aide alimentaire, c'est des choses très équilibrées. Enfin, il y a des fruits, des légumes, des laitages. Enfin, à mon époque, c'était des. Enfin, à cette époque-là, c'était des kilos, enfin, 5 kilos de riz. Mais en même temps, enfin, on survivait grâce à ça. Donc, du coup, c'était. Ce que prescrivait le médecin, c'était juste pas compatible avec notre vie. Parce que, bah, il voulait que des produits allégés. Enfin, nous, on n'avait pas les moyens d'acheter des produits allégés. Ils voulaient pas de féculents, on se nourrissait essentiellement de féculents. La viande, il fallait qu'elle soit bouillie ou grillée, enfin c'était dégueulasse. Et puis il fallait tout peser, tout mesurer. On n'avait pas de balance, enfin c'était, il y avait rien qui faisait que ça puisse fonctionner en fait. Et puis bah le soir, j'avais la dalle, j'avais faim et je pensais qu'à une chose, c'était des croissants qu'il y avait dans le placard ou des trucs comme ça. Alors qu'avant qu'on me mette au régime. Enfin, j'étais gourmande et ça me dérangeait pas de prendre deux fois des frites. Mais j'avais pas d'obsession la nuit. Je m'étais jamais levée la nuit pour aller manger avant ça. Ça m'a détraqué complet le rapport à la nourriture. Ma mère était allée au marché pour acheter des sacs de pain au chocolat et elle avait acheté un sac de fougasse. En plus, enfin, j'étais un peu en colère parce que j'étais justement dans une phase où j'avais pas le droit de bouffer. La fougasse, c'est juste ce que je préfère au monde et pain au chocolat à peu près aussi. Et donc voilà, bon, finalement, je mange une fougasse et puis elle met ce paquet de pain au chocolat au placard et elle va chez ma tante. Puis là, j'avais les crocs. Donc j'ai focalisé sur les pains au chocolat et puis j'en prends un, puis deux, puis trois et puis je me rappelle plus. Et je me souviens juste que ma mère, elle débarque, que je me suis fait les 10 pains au chocolat, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a rendu mais complètement... Enfin, je me détestais hein, d'avoir fait ça. En plus, c'était pour la semaine avec mes sœurs, nos goûters, quoi. Tu vois, enfin, du coup, je privais tout le monde de son goûter. Et enfin, ma mère a pété les plombs, quoi. Elle me dit, où sont les pains au chocolat? Mais quel pain au chocolat? Et j'ai réussi à la convaincre qu'elle avait jamais acheté de pain au chocolat. Là, ça devient le chaos, parce que je suis dans une classe de trop du cul que je déteste. C'était une classe test, en fait, des premières S, pris sur dossier pour faire un projet. Et l'année devait commencer par une randonnée en moyenne montagne. Et ben, pas de bol, moi, je venais de prendre 30 kilos dans la gueule. Donc, la randonnée en moyenne montagne s'annonçait super mal. Et ça, les profs, ils sont pas cons, ils l'ont vu hein, que j'avais pris 30 kilos. Donc voilà, mais au lieu de s'inquiéter et de se dire, oh, ben, on a Gabriel qui a pris 30 kilos dans un été, et ils ont commencé à me reprocher le fait d'avoir pris la place de quelqu'un de valide, entre guillemets. Et donc, j'ai supplié le médecin de me faire un certificat disant que je pourrais faire cette rando. Que dalle, j'ai souffert le martyr, enfin j'ai pas pu en faire la moitié, enfin et ça les profs me l'ont reproché, on était deux à pas pouvoir la faire réellement et il y avait Marilyn qui était asthmatique et il y avait moi. Marilyn, on lui a jamais rien dit, elle était asthmatique. Voilà, moi ça a été l'enfer et donc du coup, j'ai commencé à faire l'école buissonnière, enfin les profs, ils pouvaient pas m'encadrer, les élèves, ils pouvaient pas m'encadrer, enfin. Et puis quand je faisais pas l'école buissonnière, eh ben je somatisais beaucoup. Donc voilà, ça a été le chaos pendant 3 ans, quoi, jusqu'à ce que j'aille à la fac. Là, ça a été la délivrance. Je venais passer 3 années mais affreuses, et à la fac, j'étais dans l'hyperactivité. J'étais contente. Enfin, je savais que j'aurais pas de prof sur le dos à la fac. Ils en ont rien à faire de toi. Le premier truc que je fais à la fac, c'est chercher les associations étudiantes. Enfin. Je m'inscris dans une asso dès le premier jour, avant même d'aller voir mon emploi du temps. Enfin, c'est puis dans 2 assos et puis les soirées, les copains, toute la période de la fac. Même si j'ai pas de sous, même si j'ai plein de misère, même si de temps en temps il y a un con qui se moque de moi, je m'en foutais. Enfin, c'était ça allait très bien.
France Culture, les pieds sur terre.
Après la fac, bah, il paraît qu'il faut bosser, quoi. Et puis, bah, tout ça, ça retombe parce que je vois mes camarades qui, eux, se font embaucher sur des tournages, dans de la production, dans... Enfin, je faisais des études de cinéma à l'époque. Et moi, je trouve rien. Moi, je trouve vacataire, au Crous, à l'accueil pour les étudiants. Je trouve que des jobs d'étudiants, en fait. Mais je remets pas tout ça en cause sur mon poids, même si on me dit que mon poids est un frein dans le monde de l'audiovisuel. Je passe des entretiens, j'envoie des CV et puis je suis jamais prise. Et quand j'ai un entretien, enfin on me dit que ça va pas le faire, quoi. D'ailleurs, les conseillers d'orientation à la fac, ils me disent, enfin moi je leur disais, je voulais être documentariste ou faire du journalisme de terrain. Enfin, ils me disaient, ah ben non, mais enfin personne ne voudra de vous, quoi. Ils m'ont dissuadé de passer les concours d'école de journalisme, par exemple. Du coup, bah, je fais ces petits jobs, je décide de passer les concours pour être prof, mais sans être vraiment motivée. Et je loupe mes concours une fois, deux fois, mais en même temps, je m'en fous parce que je veux pas faire ça. Puis je pète un peu les plombs et je retourne à la fac. Je vais en fac de Sciences Po et je me dis, cette fois-ci, on va me prendre au sérieux. Peut-être que cinéma, c'était pas sérieux comme étude, je sais pas. Et là, je fais une licence et une maîtrise de Sciences Po qui se passe bien. Enfin, j'ai pas de soucis. Et mes camarades, c'est pareil. Et ils trouvent tous des stages de la mort qui tuent. Et moi, je trouve que dalle, encore une fois. Moi, en Sciences Po, donc j'ai fait ma licence à Montpellier et mon M1 à Grenade. Les profs m'ont tous dit, faut que tu fasses des relations publiques. Enfin, j'étais la seule à connaître tout le monde, en fait. Et donc, voilà. Et donc, les profs, ils trouvaient ça formidable. Et donc, ils me disaient, faut que tu fasses des relations publiques. Enfin, vas-y, fonce et tout. Donc, c'est motivant, quoi. Tu vois, tu dis que tu vas pouvoir postuler à des jobs, enfin, où tu vas pouvoir t'épanouir. Enfin, je tombe quand même sur un mec qui me dit, vous savez, le QI, le quotient intellectuel, est inversement proportionnel à l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc, plus t'es gros, plus t'es con. Voilà. Et je me prends ça en entretien d'embauche. Mais je me suis pas pris que ça. Je me suis pris aussi un vent, mais monumental. Pareil, on était trois en fait à attendre l'entretien d'embauche dans une grosse boîte aussi. Le recruteur est venu serrer la main des deux personnes et moi, il est venu me demander d'aller chercher la troisième personne qui devait passer. Il n'avait pas intégré que la petite grosse avec du rouge à lèvres, c'était celle-là, la troisième qui allait passer, quoi. Et je lui dis, bah, j'ai le regret de vous annoncer que je suis cette troisième personne et j'ai le regret de vous annoncer que vous allez devoir quand même me passer en entretien malgré la gêne qui va s'installer entre nous. Et donc voilà, il a dû me prendre en entretien. Mais non, ça a été atroce, ça a été atroce. Donc les gens, en fait, ils se gênent pas de vous parler du poids quand vous êtes gros. Hein. Pourtant, c'est interdit. Hein. Enfin, la loi, il y a des lois contre les discriminations. Enfin, voilà, et on n'a pas besoin de préciser que la personne est obèse. Hein, ça parle d'apparence et tout ça. Mais à croire qu'il va falloir être plus clair dans la loi. Et je fais une année où je suis en semi-dépression. Et puis là, je décide d'accepter un job dans un internat pour aller à Paris l'année d'après et créer un blog culturel et rencontrer du monde. Parce que je lâche pas cette histoire de journalisme. Et donc, enfin voilà, moi je voulais pas finir dans une administration payée au SMIC. Quand je décide d'aller à Paris, je me suis dit, bon, tu vas pas faire la fine bouche, le but c'est de développer ton blog, donc tu prends un job et je trouve ce travail de assistante de vie scolaire. Donc moi je travaillais dans une classe où il y avait 6 élèves qui avaient des retards cognitifs, et donc il y avait l'enseignante et il y avait moi. Et l'enseignante n'était pas là le jour où j'ai été recrutée, c'était en juillet. Enfin, c'était un recrutement, mais le plus long de ma vie, il a duré 3 heures. Enfin, mais bon, ils me disent, la seule crainte qu'on ait, c'est que vous ne vous entendiez pas avec l'enseignante, en fait. Et du coup, enfin, moi, j'imaginais, enfin, je me faisais des films sur cette enseignante. Je me disais, mais sur qui je vais tomber? À la rentrée, le premier jour, elle me dit, moi, je veux pas travailler qu'une grosse. Et elle me fait convoquer la semaine d'après par le principal. En gros, il fait, bon, ben, Madame X a un problème avec vous, donc j'ai un problème avec vous. Et je lui dis, ouais, mais vous allez avoir tous les deux un problème avec moi, parce que, enfin, vous n'avez pas le droit de me dire ce que vous êtes en train de me dire. En fait, ils m'ont dit que j'étais un stigmate de plus pour les élèves, que j'étais une double stigmatisation, que eux, ils se faisaient traiter déjà d'handicapés mentaux dans l'école. Ils n'avaient pas besoin d'avoir une AVS, une assistante obèse. Et puis, ils me disent, oui, mais enfin, vous êtes en période d'essai, vous avez le droit de partir. Je dis, ah, mais moi, je vais pas partir. Enfin, je venais à Paris pour changer de vie, c'était pas pour partir, parce qu'il y avait deux couillons qui me disaient de partir. Sauf que bah, pendant cette réunion, il me dit qu'il va falloir rectifier le tir, donc il sous-entend que je vais devoir perdre du poids pendant l'année. Et comme à chaque fois qu'on m'a demandé de perdre du poids, j'en ai pris en fait. J'ai pris 30 kilos dans l'année. Ça s'est manifesté comme ça, et enfin pas tous les jours elle m'insultait, hein, mais régulièrement elle m'insultait. Enfin, c'était ah ben bah, tu peux pas te bouger, ah t'es pas leste, ah t'es pas souple. Enfin, c'était que des choses comme ça, et ce principal qui la défendait systématiquement. Et puis, de toute façon, elle me disait qu'elle avait le bras long. Un jour, ça a été l'insulte de trop, où on était en train de faire un atelier avec les gosses, et elle me dit que je suis la 7e handicapée de la classe. Enfin, les élèves qui me regardent, moi qui sais pas comment me comporter parce que je veux pas être outré devant eux parce que eux ils sont handicapés et que du coup si je suis outré ça veut dire que je les rejette. Et en même temps j'ai envie de lui casser la bouche. Enfin, c'est dur quoi. Et le soir je vais chez le médecin et je lui dis si je retourne dans ce bahut il va se passer un drame. Genre je sais pas si ce sera contre moi ou contre elle mais ça va arriver. Et là on m'a arrêté. Et là ça a été le début d'une nouvelle descente aux enfers en fait. Mon blog, ça se passe très bien. Ma ligne édito, c'est interview fleuve de gens qui font de la culture, des artistes ou les gens qui sont autour d'eux. Enfin, j'en accueille tout de suite. J'ai même pas besoin de démarcher les artistes. Je suis démarchée tout de suite. Ça semble même surréaliste quand je le raconte aux copains, quoi. Sauf que jusqu'à la fin de mon contrat, je suis en arrêt. Et à la fin du contrat, j'aurais dû avoir des papiers pour pouvoir m'inscrire au chômage. Et il y a eu une petite guéguerre qui a fait que j'ai pas pu m'inscrire au chômage tout de suite. Du coup, j'avais pas de sous, quoi. Et j'ai commencé à vendre mon matos, j'ai commencé à emprunter de l'argent. Et à la trêve hivernale, j'ai arrêté de payer mes loyers. Et ce qui fait qu'à la fin de la trêve hivernale, j'avais plus d'appart. Ça a été l'enfer, j'ai fait des crises d'hyperphagie régulièrement. J'ai beaucoup grossi, je me désocialisais. La seule chose qui me faisait sortir de chez moi, c'était ce blog en fait. Sauf que j'enchaînais les interviews et j'avais pas la force de les mettre sur le net. Et mes journées, c'était un peu le chaos parce que quand j'arrivais à vendre un truc, j'investissais tout dans la nourriture. Enfin, mes journées tournaient autour de ça et par contre quand j'avais plus de sous, je me nourrissais plus du tout. Hein. Enfin, voilà quoi. Ou de bouillon s'il me restait des bouillons quoi, mais je me nourrissais plus du tout. Quand on est arrivé à fin mai début juin, il n'y avait pas un jour où je pensais pas au suicide. Hein. Enfin c'était quelque chose et je me disais mais quand est-ce que tu auras le courage de te balancer quoi. Enfin, je m'en voulais de pas avoir eu le courage de pas me balancer du 7e parce que j'habitais au 7e étage quand j'avais mon appart. Parfois, tu vois, je prenais une pomme ou je prenais une pièce et je la balançais du 7e et je comptais. Et quand ça arrivait sur le sol, je me disais, ça va vite, ça va finir très vite. Je voyais vraiment pas comment j'allais finir ce mois de juin. C'était la dernière sous-loc que j'avais pas envie de rentrer chez moi. C'était un énième échec. Donc, il y a eu cette période qui a été assez difficile. Enfin, je le racontais pas, hein. Je faisais en sorte que personne sache dans quelle misère j'étais. Et après une interview avec Clara, donc la chef de la maison d'édition, qui elle avait fait un clip porno féministe. On avait eu pendant l'interview une longue conversation sur les femmes et le rapport au corps et puis je me souviens que j'enviais un peu parce que son clip il était beau, il était militant, elle faisait quelque chose d'important. À une soirée où on était un peu pompette, j'ai balancé grossophobie dans le débat. Tu sais ce que c'est grossophobie, non? Vas-y, je t'explique. Et en fait, ça les a intéressés. Ils étaient en train de lancer une maison d'édition et ça se passe comme ça, en fait. Le 27 mai, on est à la soirée et début juin, on décide qu'on fait un bouquin, quoi. Et du coup, je suis plus du tout dans une énergie destructrice, ouais. Il n'y a plus de pulsion de Thanatos, quoi. Il est parti. Et là, je me dis, oh mon Dieu, il va falloir que je remette mon cerveau aussi, parce que mon cerveau, il était aussi en veille. Hein. Et du coup, ne plus avoir d'appart et ne plus avoir de job, c'était pas grave parce que j'avais quelque chose à faire. C'était la pulsion de vie qui me manquait, quoi. Maintenant, je vais bien. J'ai plus envie de me cramer le cerveau. Hein. J'ai pas fait de crise d'hyperphagie depuis des mois. Sortir ce que j'ai eu à sortir, ça a été une torture. Mais alors, à partir du moment où j'ai rendu le manuscrit, j'ai eu l'impression que cette vie, elle ne m'appartenait plus. Et du coup, les souvenirs, ils ne sont plus douloureux. Ça, c'est un moi qui est mort, voilà, c'est la souffrance qui n'est plus. Du coup, j'ai compris des tas de choses, j'ai compris des tas de mécanismes de moi-même avec la nourriture, mais aussi de moi-même avec les autres, de moi-même avec ma mère, mais pas que. Et cette maladie que j'ai à m'excuser d'exister, de respirer le même air qu'eux, de pas être digne, non, quoi. Quand je dis m'assumer, c'est pas dans le pride obesity ou, tu vois, enfin, genre, ouais, je suis grosse et fière de l'être. Non, ça, j'en ai rien à taper, hein. Enfin, je suis grosse. J'ai ni fierté ni honte, en fait. Je demande le droit à ce qu'on me foute la paix, surtout.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, On ne naît pas gros, un reportage de Zoé Sfez, réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Gabriel, aux éditions de La Goutte d'Or et à l'ENSAT, des commentaires, des réactions, des suggestions, des témoignages, ce que vous voulez nous dire ou savoir, direction FISA, les réseaux sociaux. Nous avons une magnifique page Facebook, nous avons également un compte Twitter et tous ces endroits, tous ces lieux de communication virtuelle attendent vos réactions avec impatience. C'est Sandrine Chaperon, bien sûr, comment l'oublier, l'attachée de production des Pieds sur Terre.